Bonjour à tous. Comme le pasteur l'a dit, je m'appelle Bonheur, j'ai 34 ans, je suis ancien à l'église Le Rocher depuis peu d'années. Avant de commencer, je voudrais vous présenter les salutations de notre pasteur, pasteur Mike Limpens, qui a déjà eu l'occasion de prêcher ici. Et je voudrais aussi vous transmettre les salutations de Valérie aussi, qui est un ancien de notre église, et de toute notre église. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de prier et de prêcher, j'aimerais d'abord prier. Seigneur, je te remercie. Qu'il est bon, Seigneur, de regarder encore à la croix où tu es mort, où tu as pris notre place. Tu nous as sauvés de la condamnation, du jugement que nous méritions, d'une vie sans Dieu. À la croix, nous avons trouvé la vie éternelle et vraiment la réconciliation avec Dieu. Nous avons trouvé Dieu dans nos vies et nous pouvons l'appeler Père. Seigneur, merci pour ce moment que nous avons passé dans la louange, en pensant à toi, à ta Seigneurie, à ce que tu as fait pour nous. Je te prie que tu puisses aussi bénir la suite et que tu puisses nous bénir et nous parler à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse aller dans le psaume 84. Mon pasteur est beaucoup plus gentil que moi. Chaque fois que mon pasteur prêche à l'église ou il prêche ici, généralement, il prépare bien les PowerPoint et il amène une clé USB où il y a un PowerPoint. Mais malheureusement, je ne suis pas aussi gentil que lui, peut-être pas aussi organisé que lui, donc je n'ai pas donné de PowerPoint et je n'ai même pas transmis le verset. Donc s'il est un peu en retard, soyez un peu indulgent avec lui. Amen. Et donc, je vais lire le psaume 84. Au chef des chantres, sur la guittite des fils de Corée, psaume. Que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, éternel des armées. Mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Pause. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous le tente de la méchanceté. Car l'Éternel, Dieu, est un soleil, est un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Quand je commençais à prêcher dans notre église, j'ai prêché d'abord aux jeunes ados. J'ai grandi dans notre église, je me suis fait baptiser dans cette église. Et puis après quelques années, pasteur Mike m'a demandé si je voulais l'aider avec les ados. Et donc j'ai commencé à prêcher aux jeunes. Et quand je prêche aux jeunes, généralement je commence par une question. Donc vous allez me pardonner si je vous pose une question. Et ma question ce matin, c'est qu'est-ce qui t'emballe le plus? Qu'est-ce qui est la chose la plus incroyable? Qu'est-ce qui est la chose la plus grandiose pour toi? Qu'est-ce qui te procure le plus de plaisir? Qu'est-ce qui te procure le plus de joie? Qu'est-ce qui te passionne le plus? Et quand on pose ce genre de questions aux jeunes, du moins aux jeunes garçons de notre église, parfois ils Ils essayent d'esquiver la question. Ils essayent d'éviter la question. Quand on leur pose des questions sur la passion, sur les ailes, sur l'emballement, je trouve parfois des jeunes qui me disent « Mais moi, je ne suis pas quelqu'un de très passionné. Je ne suis pas quelqu'un de très emballé. Je ne suis pas quelqu'un de très démonstratif avec mes sentiments, avec mes émotions. » Et parfois, on rencontre même dans la jeunesse de filles qui peuvent se plaindre du fait que le garçon est amoureux, mais il ne sait pas le montrer. Et le garçon trouve comme est-ce que je suis comme ça. Je ne suis pas démonstratif. Je ne suis pas quelqu'un de démonstratif ou je ne suis pas quelqu'un qui a des émotions. Et récemment, au camp d'adultes qu'on a fait, on avait invité le pasteur Mike Van der Wauer qui prêchait, et il y avait cette question qui avait été posée et qu'on avait discuté dans le small group, la même question: qu'est-ce qui te passionne le plus? Qu'est-ce qui t'emballe le plus? Qu'est-ce qui te donne le plus de plaisir et de joie? Et je me rappelle, quelqu'un a répondu: moi, je ne sais pas, je ne suis pas quelqu'un de passionné, d'émotif. Mais après, vous invitez ces mêmes jeunes, lorsque l'Euro commence, lorsque c'est la Champions League, lorsque c'est la Coupe du Monde, et vous voyez que les personnes qui disaient qu'ils ne pouvaient pas s'emballer, les personnes qui disaient qu'ils n'étaient pas émotifs, les personnes qui disaient qu'ils n'étaient pas capables de s'élever dans les sentiments, dans les émotions, on voit des gens qui sont passionnés, des gens qui crient, des gens qui s'emballent, des gens qui démontrent par leur attitude ce qui occupe leur cœur. Et pour vous, C'est quoi? Et je pense que si on se tourne dans ce psaume et on demande à l'auteur de ce psaume qu'est-ce qui l'emballait le plus, qu'est-ce qui le passionnait le plus, quelle est la chose la plus grandiose, la chose la plus admirable pour lui, c'est simplement Dieu, sa relation avec Dieu, son rapport avec Dieu. Le fait qu'il appartenait à Dieu, le fait qu'il était enfant de Dieu, le fait qu'il connaissait Dieu. Et je pense que je n'ai jamais rencontré un chrétien qui n'aimait pas les psaumes. Je n'ai jamais rencontré un chrétien qui avait difficile à lire le psaume. Il y a des chrétiens qui peuvent vous dire que oui, je commence à lire ma Bible et puis j'arrive dans Nombre, dans Lévitique, dans Nombre, et ça devient compliqué, ou peut-être d'autres livres comme l'Apocalypse ou d'autres épîtres, et il peut dire qu'il a difficile à ça, mais je n'ai jamais trouvé un chrétien qui avait difficile à lire le psaume. Généralement, même quand on a du mal à lire la Bible, on prend au moins le temps de lire le psaume. Et je pense que, bien sûr, c'est parce que, oui, le psaume exprime la vérité sur Dieu, la vérité tout court, comme le reste de la Bible. Mais je pense que le psaume a ceci de particulier, qu'ils expriment cette vérité à travers des expériences humaines, à travers des sentiments, à travers des émotions, à travers de gens qui ont ces doutes, ces craintes, ces emballements, ces passions, et parce que c'est exprimé à travers des expériences humaines, à travers le cœur humain, à travers ces sentiments humains, nous nous sentons généralement connectés, concernés, et nous nous sentons certainement touchés par le psaume quand nous le lisons. Mais pouvons-nous nous connecter? Pouvons-nous nous relier? Pouvons-nous comprendre? Pouvons-nous dire que pour nous-mêmes, la chose qui nous emballe le plus, qui nous passionne le plus, la chose la plus importante pour nous, c'est Dieu. Avoir une relation avec lui, être chrétien, être enfant de Dieu. On voit que l'auteur ici parle des demeures de Dieu. Il parle du parvis de Dieu. Il parle de la maison de Dieu. Mais au final, il ne parle pas simplement de lieux physiques. Ces lieux sont importants pour lui. Ces lieux sont précieux pour lui. Ces lieux sont incroyables pour lui parce que ce sont des gages ou des symboles ou des images de la présence de Dieu. Il est dit au verset 3, « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. » Non pas seulement les parvis de l'Éternel, pour eux-mêmes, mon cœur et ma chair poussent de cris vers le Dieu vivant. Et nous, est-ce que nous avons le même désir, le même emballement, la même passion quand nous venons à l'église. Non pas seulement parce que c'est une habitude, non pas seulement parce que c'est un devoir religieux, non pas seulement parce que nous allons voir des choses de frères et de sœurs en Christ et c'est incroyable d'être ensemble et de louer Dieu ensemble, mais au-delà de ça, parce que c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Est-ce que nous prenons plaisir encore en tant que chrétiens à la prière ou est-ce que nous prions simplement par devoir ? Encore, par habitude, un devoir lourd, une corvée. Ou est-ce que nous prenons plaisir en ça parce que c'est un moment où nous pouvons venir rencontrer Dieu? Il est dit dans la Bible qu'il n'y a pas de Dieu comme notre Dieu qui s'approche de nous. Dieu s'approche particulièrement de nous chaque fois que nous l'invoquons. Il est dit dans Jacques 4 au verset 8 que lorsque nous nous approchons de Dieu, il s'approche de nous. Est-ce que la prière a cette valeur? Est-ce qu'elle est cette chose incroyable, cette chose qui nous emballe parce que c'est une opportunité de nous approcher de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est quelque chose qui nous emballe? Est-ce qu'on y prend plaisir? Est-ce qu'on y prend notre joie parce que ça nous connecte à Dieu? Ça nous permet de le connaître, de nous approcher de lui? Ça nous permet d'entendre sa voix? Et même en tant que non-chrétien, s'il y en a aujourd'hui, j'aimerais dire qu'il n'y a rien de plus incroyable, rien de plus emballant, rien qui compte plus dans la vie que de connaître Dieu, d'avoir une relation avec lui, d'être son enfant, de l'avoir pour père, de marcher avec lui, de vivre avec lui. C'est ce que semble nous dire l'auteur de ce psaume. Récemment, dans notre église, il y a une fille de 33 ans qui vient de se convertir. Et c'est une fille que je connais depuis que j'ai 20 ans. On s'est rencontrés quand on était à l'université. Et bien sûr, en tant que jeune chrétien, je ne pouvais pas manquer l'opportunité, l'occasion de parler de Jésus, de parler du salut, de parler de l'évangile à mes amis à l'université. Et vu qu'on était très amis, elle devait me subir. Et elle avait toujours une réponse qui lui permettait de s'échapper. Elle pouvait m'écouter attentivement. Elle pouvait apprécier ce que je lui disais. Mais à la fin, elle disait toujours que je comprends bonheur. C'est quelque chose dont certaines personnes ont besoin de ça. Certaines personnes trouvent un certain réconfort, une certaine paix, un certain bonheur dans le fait de croire en Dieu, de croire en Jésus, dans la religion. Mais moi, je peux me passer de ça. Je n'ai pas besoin de ça. C'est ce qu'elle disait. Et entre-temps, on est restés amis, on se voyait de temps en temps à travers les années, et elle a fait sa vie, elle a été en couple, elle a eu des enfants. Et récemment, je l'ai invitée à l'église. Et j'hésitais même à l'inviter à l'église, mais je lui ai dit, mais pourquoi pas, viens dans l'église, rentre dans l'église. Et elle est rentrée, et une invitation toute simple et hésitante, pour être honnête, a changé la vie de cette femme. Elle est rentrée dans l'église et elle est revenue encore. Et une sœur lui a offert une Bible. Elle a commencé à lire la Bible et en venant à l'église et en lisant la Bible toute seule à la maison, elle est arrivée à la conclusion qu'elle était pécheur. Chaque fois que je lui disais qu'on est pécheur, elle disait « Mais tu exagères, tu déconnes, tu vas trop loin, l'homme n'est pas si mauvais ». Mais en lisant la Bible, elle en a été convaincue. Et ce n'est pas un raisonnement humain, ce n'est pas quelqu'un qui lui a appris, c'est Dieu lui-même qui lui a parlé à travers la parole. Et à un moment donné, elle a commencé à se comparer à Christ, à se comparer à l'attitude de Christ. Elle a commencé à, non pas à regarder à des grands péchés comme l'adultère, le vol ou le meurtre, parce que ce n'est pas des choses par lesquelles elle se sentait concernée, mais juste de regarder l'amour de Jésus. La patience de Jésus, la douceur de Jésus. Elle a commencé à comparer ça à son état de colère, au rancœur, à toutes les choses qu'elle avait dans son cœur. Elle a commencé à se sentir mal, mauvaise, pécheresse. Et cela a conduit à Jésus. Elle a cru en lui, elle a accepté comme son Seigneur et Sauveur. Et là où je veux en venir, c'est que cette fille qui, pendant toutes ces années, était en train de dire aux gens et de se convaincre que Dieu, que Jésus, c'était pour les autres, mais que ce n'était pas pour elle, qu'elle pouvait s'en passer. Elle me disait récemment, et elle me répète toujours quand elle vient dans l'église, elle me dit, mais comment est-ce que je fais pour vivre 33 ans sans Dieu? Comment est-ce que je fais pour vivre toutes ces années sans Jésus? Comment est-ce que j'ai fait pour vivre toutes ces années sans le connaître? Comment est-ce que j'ai pu me passer d'une relation avec Dieu, d'une relation avec Jésus? Comment est-ce que j'ai pu me passer de la prière? Comment est-ce que j'ai pu me passer de la Bible? Et quand on l'appelle aujourd'hui et qu'on parle avec elle, on voit qu'elle est toujours joyeuse de pouvoir dire « Oh, j'ai lu ça dans la Bible. Oh, au travers de cette parole, Dieu m'a parlé, j'ai médité sur ça et ça m'a tellement touché et elle ne peut plus s'en passer. » C'est la chose la plus incroyable, la plus emballante, la plus précieuse pour elle. Et connaître Dieu est une bonne chose, une chose incroyable. Et ce n'est pas juste. Ce que j'aime bien avec connaître Dieu qu'on voit dans le psaume, c'est que ce n'est pas simplement dans le bon moment, quand tout va bien. Ce n'est pas simplement quand on a la paix, quand on a l'argent, quand tout va bien dans notre couple, quand tout va bien dans notre famille, quand tout va bien à l'école, quand tout va bien dans notre famille ou avec nos amis. Connaître Dieu est un bienfait même quand tout va mal, même quand tout est triste, même quand tout nous pousse au désespoir, même quand tout semble contre nous. On lit dans le verset 6 que l'auteur de ce psaume dit: heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée des Bacas, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Lorsqu'ils traversent la vallée des Bacas, et la vallée des Bacas peut être traduite comme une vallée de larmes, une vallée de tristesse, une vallée de souffrance. Et il dit que lorsque ceux qui ont Dieu pour appui, lorsque ceux qui se confient en Dieu, lorsque ceux qui ont Dieu ceux qui ont Dieu dans leur vie, lorsqu'ils traversent cette vallée, ces situations dans la vie où tout semble contre nous, où tout semble même être prêt à nous détruire, où il y a des larmes, où il y a de la tristesse, où tout semble peut-être nous pousser même dans la dépression. Il dit que lorsqu'il traverse cette vallée, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Quand on a Dieu dans notre vie, on peut traverser toutes les situations de notre vie, même la tristesse. Il est dit de Dieu qu'il change notre tristesse en joie. Il est dit de Dieu qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Mais est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous l'expérimentons? Il y a un homme de Dieu que j'aime bien et dont j'ai lu plusieurs fois la biographie. Il s'appelle George Mueller, je pense que certains ici le connaissent. Et cet homme de Dieu avait ceci de particulier, qu'il prenait Dieu au mot et il croyait tout ce que Dieu disait de lui-même. Il croyait que Dieu rafraîchit, que Dieu restaure. Et il nous dit dans sa biographie ou dans une prédication de lui que j'ai lue que pendant 62 ans et 5 mois, il a été marié. Et puis lorsqu'il parlait, il avait 92 ans, il disait: j'étais seul, ma femme était décédée, mais je me tourne alors vers le Seigneur, alors que je marche seul dans ma chambre. Et je dis au Seigneur Jésus: mon précieux Jésus, je suis seul. Je suis seul, mais pourtant je ne suis pas seul. Tu es avec moi. Tu es mon ami. Maintenant, Seigneur, console-moi, fortifie-moi, donne à ton serviteur tout ce dont il a besoin. Quand on traverse cette vallée, tristesse, pleurs, larmes, pertes, deuil ou le désespoir, on a un Dieu sur qui on peut s'appuyer. On a un Dieu sur qui on peut compter. On a un Sauveur qui nous a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et au-delà de ça, je pense que certains d'entre vous pourraient vous connecter à ça, que parfois ce qui commence comme le moment le plus triste, le moment de désespoir, le moment de souffrance dans la vie. Parfois les années passent et ou même quelques temps passent et on regarde en arrière, on se dit que c'était des moments de bénédiction pour nous. David dit dans le psaume 119 au verset 71 que « Il m'est bon d'avoir été affligé, Et parfois, on traverse les afflictions et on regarde en arrière et ce sont des moments de bénédiction, ce sont presque des moments sacrés. Pourquoi ? Parce que dans ce moment-là, on a cherché Dieu. Dans ce moment-là, on s'est rapproché de Dieu. Dans ce moment-là, on a rencontré Dieu d'une manière particulière. Dans ce moment-là, on a expérimenté sa réalité comme jamais on l'a expérimenté auparavant. Dans ce moment-là, on a vécu cette consolation, ce réconfort, ce rafraîchissement et Dieu était tout nouveau pour nous. Ce moment sont des moments qui sont changés en source et la pluie la couvre aussi des bénédictions parce que ces moments-là, pour le chrétien, ne sont pas une finalité. Ce monde n'est pas une fin en soi. Paul nous dit que dans Romains 8, verset 18, qu'il estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui lui est révélée. Et j'aime bien le fait qu'on a chanté ce chant « J'ai l'assurance de mon salut ». Et c'est la deuxième fois que je viens dans cette église et j'aime pouvoir entendre ces vieux chants, ces vieux cantiques, ils sont toujours profonds. Quand j'avais 21, 22 ans à l'université, j'ai commencé à découvrir ces vieux chants et je me rappelle que j'ai passé tellement de temps dans ma chambre à essayer de découvrir encore de nouveau de vieux chants, qu'ils soient en anglais, qu'ils soient en français. Et j'ai passé vraiment beaucoup de temps à non seulement à lire et à méditer, mais aussi à chercher, à découvrir l'histoire de ces chants ou l'histoire de la personne, de l'auteur de ces chants. Et j'aime particulièrement l'auteur du chant « J'ai l'assurance de mon salut ». Elle s'appelle Fanny Crosby. Et cette femme était aveugle depuis l'enfance. Je me rappelle qu'il y a un moment dans sa vie où un pasteur vient et quand un pasteur voit quelqu'un qui semble, du moins pour lui, dans la souffrance ou qui semble pour lui dans un moment difficile, bon, le pasteur il se donne comme mission de venir la réconforter, de venir la consoler. Et le pasteur vient vers elle et il lui dit mais quelle tristesse, quelle tristesse que Dieu vous ait donné tellement de talent, parce qu'elle était pleine de talent, elle était brillante, elle était intelligente, c'était une poétesse incroyable, elle avait écrit ce chant et plein d'autres hymnes, c'était la première femme à être invitée au congrès américain, et donc ce pasteur est là, il lui dit, mais quelle tristesse que Dieu vous ait donné tellement de talent, mais il ne vous a pas donné la vue. Et cette femme regarde, mais elle n'avait pas la vue, et cette femme reste silencieuse pendant un instant, et elle répond au pasteur, mais pasteur, vous savez quoi? Si je devais naître à nouveau et que Dieu me permettait de lui demander une seule chose avec laquelle je voudrais naître, vous savez qu'est-ce que je demanderais à Dieu? Et le pasteur était complètement déboussolé, il ne savait pas quoi répondre. Et finalement, la femme a répondu, la seule chose que je demanderais à Dieu si je devais naître à nouveau, ce serait de naître encore une fois aveugle. Et le pasteur n'a pas compris. Et la femme a répondu, mais vous savez pourquoi? Parce que pour moi, la première chose, le premier visage que je verrai jamais de toute ma vie, ce serait le visage de mon précieux Sauveur, le visage de Jésus quand je serai au ciel. Est-ce que nous sommes capables de traverser les souffrances de la vie avec les yeux fixés sur le ciel, les yeux fixés sur ce moment où on va rencontrer Jésus? Est-ce que comme Paul, on regarde ces souffrances, ces misères, ces tristesses, on se dit, mais ce n'est rien comparé à cette gloire qui m'attend, ce n'est rien comparé à cette rencontre qui m'attend, ce n'est rien comparé à la vue de celui qui m'emballe le plus au monde, Jésus-Christ. Et ce que j'aime bien ici, c'est que aussi, je ne suis pas arrêté là-dessus, mais c'est qu'il est écrit de ce psaume que ce psaume est un psaume de fils de Corée. Un psaume de fils de Corée, et on sait tous, je pense, qui est Corée. Dans Nombre, au chapitre 26, il nous est parlé de cet homme. Cet homme était quelqu'un qui était connu pour quelqu'un qui s'était rébellé contre Dieu, c'est quelqu'un qui s'était révolté contre Dieu, c'est quelqu'un qui s'était, révolté contre Moïse, celui qui avait été choisi par Dieu. Cela nous est dit dans Nombres 26, au verset 9 à 10, que Corée avec Dathan, Abiram et 250 d'autres s'est rébellé contre Dieu, sont rébellés contre Moïse. Et il nous est dit que Dieu les a jugés, que la terre s'est ouverte et les a engloutis, et que les 250 qu'ils ont suivis ont été consumés par le feu. Mais ensuite, il nous est dit au verset 11 que le fils de Corée ne moururent pas. Donc il a été jugé par Dieu, mais il n'a pas subi le même sort qu'à Caïn, par exemple, qui avait péri lui et toute sa famille. Donc lui a été jugé par Dieu, mais il nous a dit que ses fils n'ont pas péri, n'ont pas subi le jugement de Dieu. Dieu a jugé le père, mais il a fait grâce à ses enfants. Et puis ses fils ont fait des descendants. Et ce sont ceux dont on parle, qui sont les auteurs de ce psaume et les auteurs de plusieurs psaumes qui expriment leur dévotion, leur amour, leur loyauté envers Dieu, leur relation avec Dieu. Je trouve cela encourageant de savoir que quelle qu'ait été la relation de mon père, de ma mère avec Dieu, quelle qu'ait été l'attitude de mes ancêtres vis-à-vis de Dieu, qu'ils aient été rebelles, qu'ils aient été mauvais, qu'ils aient été des ennemis de Dieu, ça ne peut pas m'empêcher, moi, d'avoir aujourd'hui une relation avec Dieu. On voit ici que la relation avec Dieu pour l'auteur de ces psaumes était quelque chose de personnel. Que Dieu, pour eux, était une réalité personnelle. Ce n'était pas simplement un roi. Ce n'était pas simplement le roi de rois. Il n'était pas simplement un Dieu distant, mais il appelle mon roi et mon Dieu. Verset 4, il dit, les passereaux même trouvent une maison et les rondelles, un nid où elles déposent ses petits, tes autels, l'Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Est-ce que Dieu pour toi est une réalité personnelle? Peux-tu dire qu'il n'est pas simplement le roi de rois, mais il est ton roi, que il est ton Dieu, que tu as cette relation personnelle avec lui? Et quand j'entends, quand je dis relation personnelle, je ne veux pas dire que c'est quelque chose qui dépend simplement de émotions. Je ne veux pas dire que c'est quelque chose qui dépend simplement de sentiments. Parce que notre relation avec Dieu, elle doit être basée sur la vérité de Dieu. Ce que Dieu révèle de lui-même. Ce que Christ révèle de lui-même dans sa parole. On voit que l'auteur de ce psaume dit au verset... Au verset 10, il dit, « Éternel, toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi, toi qui es notre bouclier. » Au verset 12, il va dire, « Car l'Éternel Dieu est un soleil et est un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. » Donc, il s'appuie sur ce que Dieu est. Et donc, c'est sur ça qu'on bâtit notre relation avec Dieu, sur ce que Dieu est, ce qu'il révèle de lui dans sa parole, ce qu'il révèle de sa personne, ce qu'il révèle de sa nature, ce qu'il révèle de ce qu'il fait, ce qu'il révèle de comment il agit, de ce qu'il accomplit, de ce qu'il veut accomplir dans nos vies. Pour citer un autre homme de Dieu que j'affectionne particulièrement, il s'appelle Hudson Taylor, c'était un grand missionnaire de Dieu. Il était missionnaire en Chine et il est parti apporter l'évangile. Dieu l'a utilisé pour ouvrir la Chine à l'évangile. À un moment donné dans sa vie, il était en train de traverser un moment de crise spirituelle. Il n'avait pas la joie, il n'avait pas la paix, il n'avait pas la victoire dans sa vie. Et c'était la crise, c'était la dépression. Et il dit, il savait que pour sortir de ça, il devait se confier en Dieu, mais il ne parvenait pas à se confier en Dieu. Et comment est-ce qu'il va sortir de cette crise? Il va simplement apprendre à se confier en Dieu. Il va simplement apprendre à prendre Dieu au mot. Il va simplement apprendre à accepter comme vrai dans son rapport avec lui, tout ce que Dieu révélait de lui-même, tout ce que Christ révélait de lui-même. Et un de ses chants préférés en anglais disait simplement, si je traduis presque littéralement, il dit « Jésus, je me repose dans la joie de qui tu es. Je me repose dans la joie de ce que tu es. » Et c'est comme ça qu'il a trouvé la joie dans sa relation avec Dieu. Simplement en apprenant qui était Dieu, qui était Jésus, la vérité sur Dieu, la vérité sur Jésus, et en s'appuyant sur ça, en bâtissant sa vie sur ça. Finalement, qu'est-ce qu'on trouve dans une relation avec Dieu? Les bénédictions qui en découlent selon ce psaume. Il nous a dit au verset 6, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. » Une des bénédictions de connaître Dieu, c'est qu'on trouve dans nos cœurs le chemin tout tracé. On trouve un sens à notre vie. On trouve un sens de direction dans notre vie. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui n'ont pas Christ, les gens qui ne les connaissent pas comme leur Seigneur et leur Sauveur, leur vie, pour moi, n'a juste pas de sens. Il n'y a pas ce sens-là de direction. Ces gens vivent au jour le jour. Ils ne trouvent pas dans leur cœur de chemin tracé. Ils n'ont pas ce sens-là de direction, il n'y a pas cet ordre-là dans leur vie. Ils ne peuvent pas répondre aux grandes questions, aux questions fondamentales de la vie. Et quelles sont ces questions? Ces questions, c'est « Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Qui est-ce qui m'a créé? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que l'homme? Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais après la mort ?» Ils ne peuvent pas répondre à ça. Ils ne peuvent pas trouver dans leur cœur de chemin tout tracé. Leur vie est comme un désert. Et quand vous êtes dans un désert, la chose qui impacte, c'est qu'il n'y a pas simplement de chemin, on ne sait pas où on va. Mais c'est seulement quand on marche avec Dieu, quand on le connaît, qu'on trouve dans notre cœur le chemin tout tracé, qu'on trouve un sens à notre vie. Et avoir Dieu dans notre vie nous donne le repos, nous donne la paix. On voit ici que le psalmiste se compare lui-même à un petit oiseau. Il dit au verset 4 que le passereau même trouve une maison, l'hirondelle, et l'hirondelle un nid où elle le pose, ses petits, tes autels, éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Le passereau même trouve une maison. Donc il y a un sens ici où il se compare à un petit oiseau qui cherche le repos, qui cherche un endroit où il peut se reposer, qui cherche un endroit où il peut trouver un abri. Et on voit le mot trouver et ça fait référence à quelqu'un qui cherche et il se présente lui-même comme ce passereau-là et ce passereau-là est à la recherche de ce lieu de repos, de cet abri et c'est comme si il cherche à cet endroit, il cherche dans un autre endroit et puis il cherche à un autre mais ça ne convient pas, puis il cherche dans un autre mais ça ne convient pas, mais où est-ce qu'il trouve ce repos? C'est en Dieu seul. Et on voit, en particulier dans la vie où, parmi les gens cherchent le repos, les gens cherchent la paix, les gens cherchent la satisfaction dans tellement de choses dans le monde. Certains peuvent passer des heures et des heures à regarder des films, des séries, lire des livres. Certains, même dans l'intellectualisme, ils vont lire tout ce qu'il y a à lire, ils vont essayer de se doper intellectuellement. Certains, comme un ami, c'était la drogue, certains, c'était le sexe, comme un autre ami. Finalement, on plonge dans ça, on se donne corps et âme dans ça, on réalise juste une chose, que ça nous laisse vide. Ça ne nous donne pas le repos, ça ne nous donne pas la satisfaction, ça ne nous comble pas. Parce qu'on a été créé pour Dieu. On a été créé pour lui, pour prendre plaisir en lui, pour le connaître, pour trouver notre joie en lui, pour l'honorer, pour le glorifier, pour citer un autre homme de Dieu qui disait que nous avons été créés pour toi et nos cœurs sont sans repos jusqu'à ce qu'ils se reposent en toi. Un de mes amis à moi que j'avais rencontré à l'université et qui est pasteur aujourd'hui, la première fois qu'on a parlé de Dieu, la première fois qu'on a parler de Jésus, la première fois que je lui ai parlé du péché, il me l'a avoué par après, il a dit, mais c'est quoi cet extrémiste? C'est quoi ce fou? C'est quoi ce malade? Parce que il avait sa vie, il avait une copine, il avait le sexe, il s'est donné au péché et il semblait satisfait. Et puis un jour, il appelle un ami à moi, un autre ami qui était chrétien à l'université, et il lui dit qu'il était sur le point de se suicider. Il avait tout absolument tout. Mais finalement, ça l'avait laissé tellement vide. Même la relation dans laquelle il était ne le satisfaisait pas. Et heureusement qu'il a eu le bon réflexe et qu'il a appelé mon ami et on l'a invité à l'église. Il est venu à l'église, il a donné sa vie à Jésus et il était en train d'étudier le droit avec moi. Et très vite, il a même arrêté de trouver la satisfaction dans ces études-là. Il a arrêté, il a commencé à chercher qu'est-ce que Dieu voulait faire de sa vie, où est-ce que Dieu voulait le conduire. Et je me rappelle bien, il a prié pendant 3 jours, il a jeûné, et au terme de ces 3 jours de jeûne, il est venu nous voir, il a dit que je pense que j'ai suis appelé à devenir pasteur. Et c'est là qu'il a entamé ses études de pasteur, et il est devenu pasteur aujourd'hui. Et croyez-moi, ce n'est pas les seuls. On peut avoir tout dans la vie, mais ça ne donnera jamais le repos. Jamais. Le repos ne se trouve qu'en Jésus, en Christ seul. Ensuite, on voit qu'il se compare non pas seulement à un passereau même qui trouve une maison, mais il se compare aussi à notre petit oiseau, une hirondelle, un nid où elle pose ses petits, tes hôtels, éternel des armées. Et une hirondelle n'a pas de cervelle, si je peux le dire ainsi. Elle n'a pas d'intelligence. Elle n'a pas de grande réflexion. Elle n'a pas de grand raisonnement. Mais elle sait par un instinct que je pense que Dieu a mis en elle. Elle sait que ses œufs, ce petit et ce nid est précieux pour elle. Il n'y a rien de plus précieux, rien de plus important. Et elle le protège et elle le couvre et elle s'occupe de ses petits jusqu'à ce qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Donc c'est la chose la plus précieuse pour elle, ses œufs et ce petit. Et le psalmiste se compare à cette hirondelle qui a confié ce qu'il avait de plus précieux à Dieu. À Dieu. Et qu'est-ce que nous avons de plus précieux? Qu'est-ce que nous avons de plus précieux? La Bible nous dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? La Bible nous dit que donnerait un homme en échange de son âme? Nous n'avons rien de plus précieux que l'âme. On peut gagner le monde entier, avoir le monde entier pour nous, avoir tout ce qu'il y a à avoir dans le monde. Mais si nous perdons notre âme, nous avons absolument tout perdu. Quelqu'un a dit une phrase comme « Perdre ses richesses, c'est grave. C'est encore plus grave de perdre sa santé. Mais perdre son âme est une perte que rien ne pourra jamais compenser, que rien ne pourra jamais combler. Et le seul endroit où notre âme peut être en sécurité, c'est auprès de Dieu, c'est dans les mains de Jésus. Avons-nous confié notre âme à Dieu? Notre âme éternelle, notre âme immortelle. Il arrivera un temps où notre corps va se détruire. Il arrivera un temps où notre corps va pourrir, il sera rongé par le ver. Mais notre âme est éternelle et devra soit vivre avec Dieu au ciel, soit être perdue éternellement en enfer. L'avons-nous confiée à la seule personne qui peut la garder, qui est Dieu, Jésus lui-même. Et on voit ici qu'il a trouvé aussi cette protection et cette force. Il dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. » Dieu était sa force. Dieu était sa force. Il nous dit ailleurs dans le verset 8 que ceux-là, ceux qui se confient en Dieu, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Leur force augmente pendant la marche. Comme nous dit à notre passage, je pense dans Deutéronome 33, au verset 25, que notre vigueur, notre force durera autant que nos jours. Et quand on regarde de petits oiseaux, quand on les regarde picorer, on voit qu'ils sont conscients du danger. Ils sont conscients que ce sont des petits oiseaux, ce sont des proies et pas des prédateurs, en particulier des petits oiseaux comme des hirondelles ou des passereaux. Et quand vous les observez picorer, Vous voyez qu'au moindre mouvement, à la moindre approche, ils s'envolent et ils fuient, ils sont conscients qu'ils sont en danger. Et nous de même, nous avons des ennemis. Nous avons des ennemis, nous avons l'ennemi de notre âme, Satan lui-même. Nous avons le monde qui est contre nous, nous avons la chair qui est contre nous, nous avons le péché qui est contre nous, nous avons toutes ces choses qui conspirent ensemble contre nous et qui veulent nous détruire, qui veulent nous conduire à abandonner, nous conduire à abandonner la foi, à nous conduire à renoncer à Christ, à renoncer à notre foi si cela était possible, qui veut nous conduire, qui conspire à nous perdre. Et le seul endroit où nous pouvons trouver la force, c'est en Dieu. Heureux ceux qui placent en Dieu leur appui. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Savons-nous ce que c'est que de nous confier en Dieu, de trouver notre force en Dieu, de nous méfier absolument de nous-mêmes. Toujours Hudson Taylor, dans un livre que j'ai acheté ici à votre librairie chrétienne, il disait quelque chose qui m'a touché et qui m'a appris beaucoup à cause de sa simplicité. Il écrivait à ses petits-enfants qui avaient peut-être entre 6 et 10 ans. Il leur disait, « Mes enfants, vous ne pouvez pas par vous-même vivre la vie chrétienne. Vous ne pouvez pas par vous-même vous garder vous-même. » Il leur dit, « Supposons qu'aujourd'hui ou demain, vous prenez cette résolution que à partir d'aujourd'hui, vous ne ferez plus du mal. À partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus désobéir à papa. À partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus désobéir à maman. » Il leur dit, « Mais vous échouerez absolument. » Il leur disait, « Mes petits-enfants, ce que je vous conseille, c'est simplement de prendre cette habitude-là, de dire à Jésus, « Je ne peux pas garder mon cœur. Je ne peux pas me garder moi-même du péché. Je ne peux pas me garder moi-même de la tentation. » Jésus, garde-moi. C'est vraiment pratique de pouvoir dire placer son appui en Dieu. C'est vraiment compter sur lui pour qu'il me garde moment après moment, instant après instant, pour qu'il me garde alors que je commence la journée et que je vais rencontrer la tentation, pour qu'il me garde même au milieu de la tentation, même au milieu de l'épreuve, quand je suis sur le point de peut-être m'emballer, d'éclater en colère à cause de ce que quelqu'un me fait. Je peux toujours, à l'intérieur de mon cœur, m'appuyer sur lui, compter sur lui, dire « Jésus, garde-moi, je m'appuie sur toi. » Est-ce que nous avons l'habitude de faire cela? Ou est-ce que nous nous appuyons sur nous-mêmes? Jésus veut nous garder, non seulement moment après moment, non seulement aujourd'hui, mais il veut nous garder jusqu'à la fin. Le verset 8 dit, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Mais une autre traduction dit que leur force augmente pendant la marche jusqu'à ce qu'ils se présentent devant Dieu à Sion. Jusqu'à ce qu'ils se présentent devant Dieu à Sion. Donc Dieu nous garde jusqu'à ce que nous puissions aller dans sa présence. Finalement, je vais m'arrêter en disant, mais comment le psalmiste a trouvé cette relation avec Dieu? Comment il a trouvé cette joie, ce plaisir et ce bonheur d'avoir Dieu dans sa vie? Comment est-ce qu'il a éprouver ce repos? Comment est-ce qu'il est parvenu à ça? Je pense que la réponse se trouve dans le verset 4 que j'ai déjà lu. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle le pose ses petits. Tes autels, éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Donc la place où il a trouvé le repos, la place où il a trouvé la paix, la place où il a trouvé ce bonheur, cette relation avec Dieu, la place où il a trouvé la vie, c'était les autels de Dieu. Et les autels de Dieu font référence à cet endroit où les adorateurs, où les gens qui s'approchaient de Dieu venaient et offraient leur sacrifice à Dieu. Et sans un sacrifice, ils ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. Et Dieu nous dit dans Hébreu que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Sans effusion de sang, on ne peut s'approcher de lui. Et bien sûr, ces sacrifices qu'il faisait, sacrifices d'animaux qu'il faisait référence au sacrifice parfait, le sacrifice de Jésus. Il nous est dit dans Ésaïe 53, verset 10, qu'il a offert sa vie en sacrifice. Et donc le seul moyen par lequel nous pouvons nous approcher de Dieu, c'est Jésus. Et Jésus-Christ crucifié est le seul moyen par lequel nous pouvons nous approcher de Dieu, avoir une relation avec lui, avoir cette joie de le connaître, de pouvoir l'appeler Père, d'avoir la vie éternelle, d'avoir le pardon de nos péchés. C'est au travers de Jésus et Jésus seul, au travers de Jésus et Jésus crucifié. Jésus lui-même nous dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie. Et pour une illustration, on lit au verset 24 de Genèse 3 que après que l'homme a péché, après que l'homme a chuté, après que l'homme s'est rebellé contre Dieu, sa relation avec Dieu a été complètement rompue, sa relation avec Dieu a été coupée, il a été chassé hors de la présence de Dieu, il a été chassé hors de l'arbre de la vie, il a été coupé de la vie éternelle. Il nous est dit au verset 24 que Dieu a mis à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, ou dans d'autres traductions, une épée qui tournait de chaque côté, une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. On voit que c'est le péché, c'est la rébellion, c'est ça qui nous sépare de Dieu, c'est ça qui nous empêche de le connaître, c'est ça qui nous ferme le porte, le chemin de la vie, le chemin à une relation personnelle avec lui, le chemin de pouvoir trouver cette bénédiction qu'il y a en Dieu. Et la question, c'est finalement comment est-ce qu'on retourne à lui? Comment est-ce qu'on peut retrouver ça? Et encore une fois, Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Je suis la vie. Pour continuer cette illustration, on peut imaginer Christ qui voit cette épée flamboyante, cette épée qui tourne de chaque côté et qui ferme absolument l'accès du pécheur à la présence de Dieu et à la vie éternelle. Et on peut imaginer Christ qui a pitié de nous, qui s'est fait âme, qui révèle notre humanité, qui révèle sur lui notre péché, qui prend sur lui notre condamnation. Et dans cette image, on peut imaginer Christ que finalement le seul moyen pour lequel de nous ouvrir la porte à l'arbre de la vie, la porte à la relation avec Dieu, c'est que lui-même est venu. Il s'est jeté sur cette épée. Et parce que cette épée a été enfoncée en lui, parce que cette épée a été complètement, a brisé complètement Christ, parce que cette épée l'a meurtri lui, parce que cette épée s'est arrêtée dans le corps de Christ, alors le chemin s'est ouvert vers nous pour que nous puissions à nouveau avoir accès à l'arbre de la vie, avoir accès à une relation avec Dieu, avoir accès à Dieu comme étant notre Père, comme étant notre Papa, comme étant notre appui, comme étant, et avoir cette joie de pouvoir dire bienheureux ceux qui se confient en Dieu, bienheureux ceux qui se confie en lui. Il n'y a pas d'autre chemin que la mort de Christ, que le sacrifice de Christ. Et nous savons cela. Et j'espère que nous le croyons. Et si nous le croyons, posons-nous cette question. Est-ce que notre vie exprime de gens qui ont conscience qu'ils ont été sauvés de la mort, de la condamnation, de l'enfer, par la mort, par le sacrifice du Fils de Dieu? Et comment est-ce qu'on peut vivre des vies qui expriment cela? Je terminerai encore par une citation d'un missionnaire. C'était David Livingstone. Il était brillant, un étudiant brillant, si je me rappelle bien, il était étudiant en médecine, il avait des relations, il était promis à un grand avenir, mais finalement, il a été appelé par Dieu à aller en mission. Et quand il a été en mission, ça n'a pas été de tout repos. Il a eu la fièvre, la malaria, et sa femme est même morte de maladie parce qu'elle ne supportait pas le climat en Afrique, dans les brousses africaines où il était parti apporter l'évangile. Et à un moment donné, il y a un jeune homme qui lui demande, mais est-ce que ça en valait la peine? Vous étiez un étudiant brillant, vous aviez des diplômes, vous aviez tout ce qu'il fallait pour réussir dans la vie, pour être grand de ce monde, pour être grand dans la vie. Vous avez une femme et vous avez été en mission et à cause de ça, votre femme est morte. Mais est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que ça en valait réellement la peine? Et Livingstone regarde ce jeune homme et lui dit, jeune homme, quand on regarde à la croix, à ce qui s'est passé là, quand on regarde à la croix, à la mort du Fils de Dieu, quand on regarde à la croix au fait que le Fils de Dieu, Dieu lui-même, il s'est fait homme, il a été fait péché, il a été condamné pour nous, il est mort pour nous, quand on regarde à la croix, à ce qui s'est passé là, alors aucun sacrifice n'est trop grand pour lui. Et il dit, je n'ai fait aucun sacrifice dans ma vie. J'ai juste eu le privilège de le servir, même sacrificiellement. Et donc, j'ai fini par nous dire, est-ce que nous vivons comme ça pour Christ? Rien n'est trop grand pour lui. Aucune limite à notre obéissance, aucune limite à notre consécration, aucune limite à notre dévotion. Il n'y a rien qui puisse nous demander que nous refuserons de le faire. Parce qu'il est mort pour nous et nous a sauvés. Amen. Père, il est facile de se tenir devant les gens et de prêcher, de se tenir devant les gens et de dire des choses. Mais je me tiens ici comme quelqu'un qui se met au même rang que les autres. J'ai aussi besoin de toi, Seigneur. Et ma prière est que tu inclines nos cœurs vers toi. Que nous puissions réellement te chérir, t'aimer. Que nous puissions réaliser le privilège que nous avons d'être enfants de Dieu, de t'appartenir. Que nous puissions marcher d'une manière qui est digne de toi, de ton amour, de ta grâce, du sacrifice de ton Fils Jésus. Ô Père, renouvelle-nous par ta parole. Au nom de Jésus. Amen.